Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, Armand Dubois au micro, heureux de vous retrouver à nouveau et une fois de plus en présence du docteur Jean Léveillé, qui se définissait la semaine dernière comme un ornitho-guetteur, qui a une passion évidemment pour les oiseaux, qui a publié déjà de nombreux volumes à cet égard, particulièrement sur le comportement des oiseaux, et qui cette semaine va peut-être nous parler davantage de son univers médical. Docteur Léveillé, d'abord, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de nous revenir cette semaine.
C'est avec grand plaisir.
Je mentionnais que l'univers médical dans lequel vous évoluez est un univers assez spécialisé. Vous êtes en médecine nucléaire et il y a quelques semaines, quelques mois, on a parlé de cette crise des isotopes. Pas nécessairement facile à comprendre pour les novices que nous sommes, mais à travers cette crise, on a quand même réalisé que le Canada était le fournisseur presque de la planète entière au plan médical, au plan des isotopes. C'est quand même curieux. Comment se fait-il que le Canada se soit retrouvé dans cette position?
Alors ça, c'est fascinant et je pose souvent la question, comment ça se fait que le Canada est devenu un pays nucléaire? Parce qu'il n'y a rien qui préparait ce pays-là à devenir un pays nucléaire. On n'est pas ceux qui avons l'ancienne bombe à quelque part. Prenez la France, l'Angleterre, ils ont développé des armes nucléaires, mais pas le Canada. Mais comment ça se fait que le Canada devient un pays nucléaire? C'est une histoire fascinante. Alors, pour abréger, lorsque Hitler envahit la France, dans ce qu'on a appelé la guerre éclair, il y a un objectif en particulier, c'est de mettre la main sur une équipe très, très importante qui est l'équipe Curie. Bon, pour l'histoire, on se souvient que Marie Curie a eu, et sa fille ont eu un rôle très important dans la découverte parce que le nucléaire, c'est pas quelque chose de purement artificiel. Hein. On découvre que ça existe quand on
va à
l'état naturel. Donc, la radiation, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Juste une petite parenthèse. Si vous permettez, les gens me disent « Ah, moi, je suis contre le nucléaire, c'est pas correct, etc. » Je le donne le parallèle. La Première Guerre mondiale, c'était une guerre où on a utilisé des gaz pour tuer l'ennemi, hein? Des gaz toxiques comme le gaz moutarde.
Voilà. Bon.
Et qu'est-ce qui est devenu le gaz moutarde? C'est devenu la base de notre chimiothérapie aujourd'hui. Donc, on traite des cancers. C'est sûr que si on en met trop, ben là, on tue. Mais le but, c'est de tuer des cellules cancéreuses et en apprenant à maîtriser ça, bon, on apprend à guérir. De la même façon, les radiations, aujourd'hui, quand quelqu'un a, par exemple, un cancer, on dit, oui, j'ai eu de la chimiothérapie, oui, j'ai eu de la radiothérapie, bien, la radiothérapie découle de ça. Donc, c'est pas... où je pose une question, est-ce que tu as un détecteur de fumée chez toi? Un détecteur de fumée, c'est une pile radioactive. Est-ce que c'est utile? J'ai travaillé à l'Hôtel Dieu où on avait l'unité des grands brûlés. Si on va travailler à l'unité des grands brûlés, on va dire il faut bannir les allumettes, c'est trop dangereux. Donc, ce que je veux dire, c'est que toutes ces choses-là, on doit apprendre à les maîtriser, les contrôler. Donc, Hitler se dit, il y a une équipe très importante à Paris, je vais mettre la main là-dessus. Et vous vous imaginez, par exemple, le changement de l'histoire, si une V1 ou une V2 avait transporté une bombe atomique sur Londres, ça aurait été tout à fait différent. Donc, à ce moment-là, il y a des Juifs qui travaillent à l'intérieur de l'équipe Curie, et ils savent que Hitler n'est pas très sympathique aux Juifs, donc ils décident de se sauver. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer à Ottawa un de ces membres-là, qui est Bertrand Goldschmidt, qui a écrit un livre extraordinaire. Ça s'appelle « Pionnier de la tombe ». Et « Pionnier de la tombe » raconte ce qui s'est passé après la fuite de ces gens-là. Donc, il se réfugie à Bordeaux avec les barils d'eau lourde. À l'époque, l'eau lourde, c'est quelque chose de fantastique. D'ailleurs, Hitler va avoir un deuxième échec lorsqu'il va vouloir s'emparer d'eau lourde au Danemark, par exemple.
Mais l'équipe Curie travaillait sur quoi, précisément?
L'équipe Curie travaillait sur la radiation et ils avaient découvert qu'on pouvait... Bon, c'est une source d'énergie extraordinaire. On peut s'en servir à toutes sortes de fins, mais là, ça serait très long. question parce que je vais vous donner l'exemple. À une époque, on faisait des enluminures et on trouvait que on dessinait des peintures et on trouvait qu'il y avait un reflet particulier. Ben c'était du phosphore radioactif qu'on mettait là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé de tous ces peintres qui ont eu des cancers des lèvres parce que pour avoir une belle forme, ils mettaient le pinceau dans leur bouche. Donc, les radiations, on est au tout début, puis on apprend comment s'en servir, et on va savoir qu'on peut faire des formes d'énergie inouïes, par exemple des bombes. Hein? Hiroshima et Nagasaki vont découler de toutes ces choses-là. Bref, le groupe se réfugier à Bordeaux, et là, c'est très dangereux. Ils décident de passer en Angleterre. Ils vont rejoindre des collègues qui travaillent sur le même domaine à Cambridge. Et là, il est question qu'Hitler envahisse l'Angleterre. Donc, on dit où est-ce qu'on peut envoyer ces équipes-là qui sont très dangereuses parce que, évidemment, probablement que ça va sceller l'issue de la guerre. Et là, il y a des longues discussions. Bref, ils aboutissent au Canada. Parce que les États-Unis ne peuvent pas les accueillir. C'est une équipe multinationale. Et là, ils sont un peu réticents à avoir d'autres gens que des Américains.
Alors, faisons une pause. Retrempons-nous un peu dans le contexte de l'époque avec une chanson de Maurice Chevalier.
Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voiler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne, on peut la nuit jouer de la sirène, nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau, par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 9, 10, 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Bien que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les hermines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins froufroutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Ah, si vous pouviez voir la corbeille de jolies femmes que nous avons ce soir. Vous ne pensez pas que c'est encore une richesse naturelle du pays, ça? Paris sera toujours Paris. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus de prix. Paris sera toujours Paris.
Docteur Jean Léveillé est avec nous pour nous raconter une histoire fascinante qui émane finalement de la Seconde Guerre mondiale et qui a fait en sorte que le Canada est devenu le fournisseur mondial d'isotopes au plan médical. Alors, lorsque, avant d'entendre Maurice Chevalier, vous parliez donc de ce groupe Curie qui se retrouve en Angleterre et Hitler qui, dans le fond, se sent aussi d'une certaine façon un peu menacé à l'égard de ce projet.
En fait, Hitler veut mettre la main sur ces équipes-là en se disant, ben là, je vais vraiment posséder le monde. Il y a eu beaucoup de choses pendant cette guerre-là qui ont été oubliées. Et ça, le désir de posséder le monde, c'était quelque chose d'absolument essentiel pour Hitler. Donc, on dit où est-ce qu'on va envoyer cette équipe-là parce qu'il risque d'envahir l'Angleterre et il va remettre la main sur ces équipes-là. Et là, il y a des discussions entre Churchill et Roosevelt qui appellent le premier ministre du Canada, Mackenzie King. Ils lui disent, on a une équipe, on voudrait les envoyer pas très loin des États-Unis. Mm-hmm. Le Canada, c'est un endroit très pratique. Et il y a des locaux qui sont construits. En passant, le campus actuel de l'Université de Montréal, c'était le CHUM de l'époque. Hein. On devait avoir et un hôpital et la faculté de médecine, un peu sur le modèle de ce qu'on retrouve à Sherbrooke. Et on a construit le campus actuel, mais il est inhabité. Et là, on décide d'installer ces équipes-là dans le campus de l'Université de Montréal. C'est là où une partie du projet Manhattan va être réalisée.
Et ça, c'est pas connu, parce que le projet Manhattan, tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit. C'était le développement, finalement, de ce qu'allait être cette bombe atomique. Mais qui... était au courant qu'à l'Université de Montréal, on travaillait sur ce projet. Ça, c'est quand même relatif. C'est presque une nouvelle que vous nous apprenez. Là.
Donc, le gouvernement du Québec n'est pas au courant. Il n'a jamais été au courant. Il y a le gouvernement du Canada, mais très peu. Le premier ministre est au courant. Et c'est un projet ultra secret. Il y a un journal, le Montréal Matin, qui va sortir une photo en disant 60 savants étrangers travaillent à un projet très secret à l'Université de Montréal. Ils vont recevoir la visite de la CIA. En fait, de tous les organismes secrets, en disant un mot de plus et on ferme le journal. Donc, c'est passé inaperçu. Mais ce qui est assez intéressant, ces gens-là vont travailler pendant toute la guerre et De Gaulle va venir à Ottawa pour une visite et ces gens-là décident de rencontrer De Gaulle et De Gaulle prend la décision que la France va être nucléaire après sa visite d'Ottawa, alors que ces gens-là l'ont convaincu que ça va être essentiel après la guerre. Donc, il y a trois pays qui vont devenir vraiment nucléaire, les États-Unis évidemment, l'Angleterre parce qu'il y a une équipe anglaise et les Français parce que l'équipe française retourne en France.
Et le Canada alors?
Donc, il y a des Canadiens qui ont travaillé parmi ces groupes-là, ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire avec eux. Et là, il y a des discussions. Bon, on va envoyer ce groupe-là. Il y a deux endroits qui sont envisagés, Shawinigan et Chalk River. Évidemment, pour toutes sortes de raisons, là, je passe par-dessus les discussions qui ont eu lieu. Shawinigan est écarté et ça va être Chalk River.
Mais probablement aussi parce que, faut bien le dire, les Québécois avaient voté non à la conscription. Mackenzie King est au pouvoir. Il y a probablement eu des objectifs politiques derrière le fait qu'on écarte Shawinigan.
Aucun doute. Et dans son livre, Bertrand Goldschmidt décrit tout son séjour au Québec. Par exemple, ils prenaient leurs vacances à Sainte-Marguerite dans les Laurentides. Il décrit très bien l'atmosphère qui était là.
Écoutez, ces équipes... Quelle était-elle, justement, cette atmosphère?
C'était le secret absolu, mais eux aimaient beaucoup le Québec. Hein? Ils aimaient beaucoup sortir de leur laboratoire et aller un petit peu partout, explorer les Laurentides. Donc, c'est fascinant de voir comment une équipe comme ça perçoit le Québec. Et c'est tout à fait différent de ce que nous, on perçoit. Donc, Chalk River va devenir le centre de... Parce que le Canada décide que ça va être du nucléaire pacifique. Et encore là, il ne faut pas tout mettre dans un même panier. Hein? Les bombes, les mines, tout ça, c'est très dangereux, mais on peut faire des choses très, très bien. Si on n'avait pas la dynamite aujourd'hui, beaucoup de nos routes n'auraient pas été construites. Si on n'avait pas le nucléaire, beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui, qui ont eu de la radiothérapie, ne seraient pas vivants parce qu'ils n'auraient pas pu combattre leur cancer. Donc, il ne faut pas tout mettre dans un même panier. Alors, le Canada décide que ça va être du nucléaire pacifique et c'est comme ça qu'on devient les producteurs mondiaux de toutes les substances radioactives. L'isotope le plus connu, c'est le technétium. Et à ce moment-là, ça va fonctionner très bien jusqu'à un moment donné où les gens du Canada décident de faire une grève. Et là, ça réveille le monde entier parce qu'ils se disent, wow, qu'est-ce que c'est ça? On dépend juste du Canada. C'est un pays un peu moins fiable qu'on le pensait. Et c'est comme ça qu'il va y avoir des réacteurs secondaires qui vont se développer un petit peu partout, par exemple, en Hollande, etc. Et maintenant, on va avoir l'alerte de 2007 qui va nous dire que c'est un vieux réacteur. Donc, le réacteur est vieux, mais ce qui me scandalise et ce que je comprends pas, c'est que la population ne réalise pas qu'on en a bâti deux neufs, qu'on a appelés les Maple. Chaque réacteur qu'on vient de bâtir a coûté 350 millions. On vient de mettre... parce qu'on ne s'est pas réveillé du jour au lendemain en disant, ben, c'est un vieux réacteur, un jour, il va falloir faire quelque chose. Non, on savait qu'il était vieux et entre-temps, on bâtit des nouveaux réacteurs en disant, ben, c'est ça qui va prendre la relève. Et c'est là où ça prendrait plus d'analyse pour savoir ce qui s'est passé, mais il y a différentes hypothèses. Par ailleurs, en 2007, lorsqu'on a l'arrêt du réacteur, ben là, ça réveille encore plus les autres pays. Et là, la crise actuelle, c'est ça qui me chagrine, c'est parce que les Canadiens, et en particulier les Québécois, sont pas au courant des enjeux. C'est une industrie d'avenir. Donc, nos jeunes générations, nos jeunes scientifiques ont besoin de ça. On parle beaucoup de l'exode des cerveaux. Oui. On est en train d'en préparer un très grave. Je vais vous donner un parallèle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a été très, très fort en aviation. On a eu, entre autres, le projet Arrow.
Oui.
Qui a été excessivement important. Et on a décidé, le gouvernement à l'époque a décidé d'arrêter le projet Arrow.
Ça, c'était sous Diefenbaker.
Diefenbaker, oui.
Mémoire est finie,
oui, oui. Et c'est ça qui me choque, c'est que certains gouvernements n'ont pas de vision d'avenir sur les domaines importants. Et je suis allé à la NASA. Et il y a beaucoup de gens de Arrow qui sont rendus à la NASA. Est-ce que vous avez vu dernièrement, on a voulu abandonner le bras canadien. Écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire juste de l'agriculture? On va faire juste des matières premières qu'on va vendre? Ou si on va préparer pour nos jeunes des domaines de recherche et d'avenir?
Mais je reviens sur l'histoire du développement donc du nucléaire. N'eût été du projet Manhattan... de l'intérêt aussi d'Hitler pour le développement du nucléaire, parce qu'il voulait, avec son ambition, dominer le monde, n'eût été de ce projet probablement que le Canada ne se serait jamais positionné au plan du développement du nucléaire pacifique.
Effectivement, ça ne serait jamais venu ici. Bertrand Goldschmidt, dans son livre, parle du Canada vu de l'extérieur et à l'époque, on parlait d'un désert scientifique. Pourquoi allons-nous mettre des équipes aussi importantes dans un désert scientifique? Et moi, je pense que c'était une chance, une opportunité historique de développer des domaines d'avenir. Et on est devenu les producteurs mondiaux à cause d'un accident de parcours qui était une guerre. Et moi, je pense qu'on devrait, on aurait dû protéger un joyau. Mais ce qui me chagrine le plus, c'est qu'on a de moins en moins de programmes à allure scientifique. Donc, on ne peut pas expliquer ça. On ne peut pas expliquer ce qui se passe. C'est bien beau d'avoir des programmes de divertissement, mais moi, je m'ennuie d'un programme comme le sel de la semaine qui nous permettait de faire le point d'une façon vulgarisée sur des enjeux énormes. Ça, la maîtrise du nucléaire pacifique, c'est un enjeu majeur. D'ailleurs, je pourrais vous présenter des écrits. Je viens de recevoir justement les représentations des Américains auprès du Sénat américain. Vous pouvez être sûr que les Américains vont s'organiser. L'Allemagne est en train de s'organiser. Tous les pays sont en train de s'organiser en disant « ce maudit pays qui est le Canada n'est pas fiable, donc on va organiser des équipes ». Et qu'est-ce qui va arriver? Dans X années, on va payer très cher parce qu'on va importer tous nos produits. Moi, je veux bien qu'on subventionne les industrie automobile qui est une industrie américaine, mais pourquoi pas avoir créé une industrie canadienne? Pourquoi le bras canadien, on va l'abandonner? Pourquoi le projet Arrow, on l'a abandonné? Pourquoi le gouvernement actuel dit les isotopes, on va abandonner ça? Écoutez, dites-moi ce que nos générations futures vont faire comme scientifiques. Ils vont être obligés de s'exiler. Et c'est là où je pense qu'on devrait avoir des forums qui permettent un peu d'expliquer ce qui est en train, les vrais enjeux.
On enchaîne au plan musical avec une pièce de Claude Léveillé que vous aimez beaucoup, particulièrement celle-ci, Les Rendez-vous.
Oui.
Puis on revient sur ce développement de l'industrie nucléaire. Mais un mot sur l'éveillé, oui.
En fait, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les paroles. Où sont passés les mots qu'on n'a pas pris le temps d'entendre? Et peut-être, pour certains pays, les opportunités qu'on a oublié de prendre.
Garderez-vous, parmi vos souvenirs, ce rendez-vous où je n'ai pu venir. Jamais, jamais, vous ne saurez jamais si ce n'était qu'un jeu ou si moi je vous aimais. Les rendez-vous que l'on cesse d'attendre existent-ils dans quelque autre univers? Où vont aussi les mots qu'on n'a pas pris le temps d'entendre et l'amour inconnu que nul n'a découvert? Eh bien, gardons court après la fortune, on risque de perdre l'amour. Moi j'ai payé de mes clairs de lune de vouloir allonger les jours, augmenter le chiffre d'affaires pour gagner quoi? Quelques billets qui ne pourront jamais refaire le hasard que moi je gaspillais. Garderez-vous parmi vos souvenirs ce rendez-vous où je n'ai pu venir. Jamais, jamais, vous ne saurez jamais si ce n'était qu'un jeu ou si moi je vous aimais. Les rendez-vous que l'on cesse d'attendre existent-ils dans quelque autre univers? Où vont aussi les mots qu'on n'a pas pris le temps d'entendre et l'amour inconnu que nul n'a découvert? Eh bien, nos parts faisaient sauter la banque. C'était une question de temps. Mais ce rendez-vous que l'on manque est mille fois plus important, même quand c'est une inconnue qui fait les 100 pas quelque part. Je sais, vous êtes venu, mais je suis arrivé trop tard.
Docteur Léveillé, Jean Léveillé est avec nous, nous raconte l'histoire fascinante du développement du nucléaire au Canada, du nucléaire pacifique, parce qu'on fait souvent l'arrimage entre le mot nucléaire et le mot guerre, mais ça n'a rien à voir, d'autant que vous évoluez dans un domaine, celui de la médecine nucléaire, qui a, bien sûr, des aspects très positifs sur des traitements, sur la guérison de certaines maladies.
Ben, c'est un peu comme dire, bon, je suis allé à l'unité des grands brûlés, je suis contre les allumettes. Je sais pas comment on va passer l'hiver prochain si on chauffe pas nos maisons. Donc, il faut apprendre. Évidemment, la guerre, c'est terrible. La guerre, disait Lénine, ce sont des accélérateurs de la science. Beaucoup d'inventions, la poudre à canon, etc., c'est venu. Ben, un feu d'artifice, c'est beau. On fait pas la guerre, nécessairement. La dynamite, ça permet de construire des routes, etc. Donc, il y a beaucoup de développement. La Première Guerre mondiale et les gaz toxiques, c'est devenu la chimiothérapie. Est-ce que on nuit aux gens en guérissant leur cancer? Je pense que beaucoup de gens seraient pas vivants si on n'avait pas eu ces découvertes-là, la découverte des gaz toxiques et du nucléaire, parce que les gens protestent. Oui, je suis obligé d'aller aux États-Unis pour ma radiothérapie parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, mais la radiothérapie, c'est de l'irradiation. C'est de l'irradiation contrôlée. Et si on bannissait tout ce qui est dangereux, je pense que demain matin, on arrêterait l'industrie automobile parce que combien de gens meurent, mais il faut voir l'intérêt.
Donc, avoir de la vision.
Oui, et c'est ça qui est malheureux dans certains pays. Je pense que le Canada est en train de s'enfermer dans une espèce d'isolement où il n'y a pas de vision. Dites-moi quelles sont les visions de développement dans un domaine scientifique au Canada et même au Québec.
Docteur Léveillé, nous complétons cette première demi-heure, cette première partie d'émission avec Mozart, le mouvement lent de son concerto numéro 21 pour piano. Mieux connu sous l'appellation parce qu'il a été très présent dans un film, Elvira Madigan.